certains ont eu le bonheur de vivre un temps de louange, je crois, ce qui arrive en ce moment. Et nous, on n'a pas vraiment eu ce temps-là, donc on va chanter en communion avec les cardinaux qui sont en train de voter. Depuis 9h15, nous allons invoquer l'Esprit Saint.
Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière.
Collège cardinalis, le cardinal Ray a rappelé la présence de Marie avec les apôtres et il a demandé à chacun des cardinaux de vivre ce temps de retraite, d'accueil de l'Esprit Saint avec Marie. Et lorsqu'on m'a demandé d'intervenir sur le thème de l'espérance en lien avec la famille, en fait, j'ai pas trouvé d'autre solution que de parler de Marie, qui est la mère de notre espérance, la mère de la petite espérance, la mère de l'espérance avec les apôtres réunis au Cénacle, la mère de l'espérance en l'absence de Jésus le samedi saint. Le samedi saint, elle est gardienne de l'espérance, de cette espérance qui est une vive flamme d'amour qui nous conduit sûrement à Dieu par Jésus. Cette espérance, elle doit guider toute notre vie. Elle a Dieu pour objet et elle est gardée d'une certaine manière par le modèle de l'Église qui est Marie. Donc je vais parler de Marie tout le temps. À un moment ou à un autre, il est possible que j'évoque Joseph quand même. Je vais commencer par commenter, je vais faire un parcours biblique, évangélique. Et je vais commencer de façon non chronologique, par la présentation de Jésus au temple, et vous comprendrez pourquoi. La présentation de Jésus au temple, c'est la famille, Marie, Joseph et l'enfant Jésus, qui arrive pour la démarche qui est peut-être celle de beaucoup de familles ici, pour se recommander au Seigneur, pour présenter leur vie au Seigneur, pour vivre finalement ce que chaque baptisé aujourd'hui peut vivre depuis que le Christ a vécu sa Pâque, c'est la dimension sacerdotale. J'offre ma vie et j'offre celle des autres. Elle était comme préfigurée et inaugurée dans cette présentation de l'enfant Jésus par Marie et Joseph au temple. Je vais lire le texte. Quand fut accompli le temps, prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Il bénit Dieu en disant « Maintenant ». Maintenant. Ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à sa mère, Marie, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme, prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge, après 7 ans de mariage, demeurée veuve. Elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Dans ce texte, en fait, il y a tout, de manière symbolique. Il y a symboliquement Siméon, qui représente l'attente d'Israël, la longue attente d'Israël, parfois difficile, l'espérance d'Israël. Il représente le temps qui dure, il représente le chronos. Vous savez qu'en grec, pour dire le temps, il y a trois mots. Il y a le chronos, il y a l'aion, et il y a le kairos. Siméon, c'est celui qui représente ce chronos, ce temps qui passe parfois trop vite, parfois trop lentement. La seconde est trop courte et le siècle est trop long. Le moment des amoureux est trop court et le temps d'une conférence est trop long. Il n'est jamais vraiment présent. Au moment où je prononce son nom, Chronos, tac, il est passé. Et il s'inscrit dans le passé et je ne peux plus le rattraper. Ce Chronos, malheureusement, nous plonge trop dans le passé, trop dans le futur. Et pourtant, il est nécessaire. C'est le temps de l'attente, c'est le temps pénible, c'est parfois le temps de la souffrance. C'est le temps de la gestation. C'est ce temps qui est créé par Dieu dans la Genèse. Dieu créa le temps dans la Genèse. C'est un temps qui est linéaire, assez masculin, parce que empreint d'efficacité. C'est le temps qui est symbolisé aussi dans sa dimension de souffrance par ce glaive qui transpercera le cœur de Marie, qui nous projette dans le futur. Siméon est l'homme, d'une certaine manière, du passé, de l'attente du peuple d'Israël et du futur de l'annonce du mystère pascal. L'autre temps, l'autre terme grec, vous le connaissez probablement moins, c'est l'aion. L'aion, c'est un temps circulaire, c'est un temps cyclique, c'est le temps des anniversaires et des saisons, c'est le temps liturgique, c'est un temps rassurant, c'est un temps enveloppant, c'est un temps un peu plus féminin, puisqu'il est cyclique. Et ce temps-là, il est donné pour, d'une certaine manière, équilibrer le chronos, un peu trop efficace. C'est le temps de la gratuité, c'est le temps de la profondeur spirituelle, c'est le temps de l'intériorité, c'est le temps de la pause et de la retraite, dans tous les sens du terme. Ce temps, il est symbolisé par la prophétesse Anne, et il a quelque chose de la perfection humaine, qui est dit d'ailleurs dans l'âge de cette femme, 84 ans. 84 ans, c'est 12 fois 7. 12, c'est la perfection dans l'ordre de la quantité. Les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, les 144 000 sauvés, c'est-à-dire l'humanité tout entière, 12 fois 12, 144. Cette perfection dans l'ordre de la quantité est couplée avec le chiffre 7, la perfection dans l'ordre de la qualité. Tout l'homme et tous les hommes. Et rien que cette évocation nous rassure aussi. Nous sommes sauvés. Nous sommes accueillis dans ce cœur de Dieu pour un temps de prière, d'intériorité, de rencontre avec le Seigneur. Les deux personnes, Siméon et Anne, qui représentent les deux temps créés par Dieu à la Genèse, font face à une famille, un couple, au cœur duquel se trouve le kairos, le temps incréé. Celui qui symbolise ce temps incréé, c'est le Verbe de Dieu, qui s'inscrit pourtant dans le temps créé par le mystère de l'incarnation. Le kairos, c'est difficile à définir avec nos réalités humaines actuelles. Le kairos, c'est, je ne saurais pas comment le définir autrement que par surgissement de l'amour de Dieu dans nos vies. C'est à la fois un temps et un événement. Le kairos, c'est le moment béni où le Seigneur intervient. Et on s'imagine, nous qui sommes pauvres et pécheurs, que ce moment béni, c'est le temps d'une célébration, un temps de prière, un temps de retraite, un temps de veillée d'adoration. Mais pour Marie, c'est maintenant. Maintenant, au Maître souverain. Pour Marie, le kairos, c'est maintenant et toujours. À aucun moment, la Vierge Marie n'a rompu le temps. Ce kairos, c'est l'éternité. C'est l'éternel présent. C'est le temps de Dieu qui ne s'inscrit pas dans le temps créé, mais dans le temps incréé. Et qui nous offre le kairos pour que dès maintenant, nous puissions vivre de lui. C'est le temps de l'amour. Et il est toujours possible, à chaque instant. Ce surgissement de Dieu, il nous est offert à chaque instant. Chaque instant nous permet de vivre l'éternité. Alors Marie n'a jamais rompu ce cycle de l'éternité, puisque à aucun moment elle n'a coupé cet éternel présent. Étant sans péché, elle a fait de chaque instant un moment d'éternité. Étant sans péché, elle a fait de chaque instant le moment favorable, le temps de Dieu. Étant sans péché, elle a commencé son éternité le jour de sa conception et elle ne l'a jamais interrompu. Si vous voulez savoir pourquoi la Vierge Marie est montée au ciel avec son corps, si elle a peut-être vécu sa mort en communion avec celle du Christ, mais sans nécessité, c'est parce qu'à aucun moment elle n'avait rompu ce magnifique fil de l'amour de Dieu, cet éternel présent qui s'inscrit dans nos vies. Elle avait fait de chaque instant le temps d'aimer, quel que soit ce qu'elle vivait, que ce soit un temps de repos ou de travail, un temps de vie familiale ou un temps de prière, un temps de joie ou un temps de souffrance. À chaque instant de sa vie, Dieu était présent. Dieu était là au cœur de sa vie pour donner un sens à tous ces moments qu'elle vivait pour en faire des instants d'éternité. Donc puisque son éternité avait commencé et ne s'est jamais rompue, il n'y avait aucune raison que cette éternité passe par une transition que nous sommes obligés de vivre comme pour nous réhabituer au kairos, comme pour demander au Seigneur de nous apprendre à aimer. Je vous dis ça et je commence par ce passage de commentaire pour que vous puissiez comprendre tout le reste de la vie de Marie. Si la vie de Marie n'a été qu'un kairos, alors la vie de Marie a été un kairos dans les temps de bouleversement comme celui de l'Annonciation. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Annonciation. Il y a deux passages de l'Annonciation qui me bouleversent. Vous allez être surpris, hein. Le premier passage, c'est l'ange entra chez elle. Et le deuxième passage, c'est « Alors l'ange la quitta ». Quand j'étais au Puy-en-Velay et qu'on proclamait cet évangile le 15 août pour la grande fête et la grande procession du 15 août, au début j'étais étonné. Je me disais, ce texte de l'Annonciation dit des choses absolument stupéfiantes. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et pourquoi on dit l'ange entre et l'ange la quitte? Ça paraît banal, quoi. D'abord parce que Dieu s'est invité dans la vie de Marie de manière toute simple. Il faut un peu oublier les peintres de la Renaissance qui représentaient l'ange avec des ailes traversant le plafond avec force fumée et encens. Si l'Évangile nous dit l'ange entra chez elle, c'est probablement qu'il est tout simplement entré, probablement par la porte. Et si on le dit avec autant de simplicité, et si on se rappelle que dans la Bible, la plupart du temps, l'ange prend figure humaine, eh bien, probablement, cet ange avait une figure humaine. Mais Marie savait. Le cœur affiné par la grâce de Dieu, elle savait qui il était. Quelle que soit votre vie, quelle que soit votre apparence, comme Dieu, Marie vous connaît. Et c'est percer l'extériorité pour entrer dans l'intériorité de ce que vous êtes, dans le trésor que vous portez. Marie avait cette grâce de pouvoir vivre chaque rencontre comme une rencontre avec Dieu lui-même. Pas seulement avec l'ange, mais avec tous ceux qui l'entouraient. Une rencontre avec Dieu lui-même. Donc elle a reçu l'ange comme si c'était Dieu lui-même. Pourtant, ça n'était qu'un ange. C'est déjà pas mal. Hein. Et ensuite, je suis assez touché par « Alors l'ange la quitta ». En 1998, lorsque j'étais directeur de théâtre, j'ai travaillé avec un chorégraphe qui s'appelle Angelin Preljocage, qui a créé une œuvre artistique qui s'appelle « Annonciation », chorégraphique, tout à fait stupéfiante. Dans un jardin clos qui représente la virginité de Marie et sa consécration, il a mis en scène un ballet pour deux danseuses. Deux danseuses? L'ange représenté par une femme? D'abord, pourquoi pas, puisque l'ange n'a pas de sexe. Donc, figure humaine, ça ne veut pas dire figure masculine. Ensuite, il n'y avait aucune idéologie, rassurez-vous, derrière son intention. Il avait exprimé cette intention de représenter l'ange par une femme, parce qu'il ne voulait pas que, dans le dialogue entre Marie et l'ange, puisse être exprimée au spectateur une ambiguïté. Il voulait que ce soit plutôt la complicité qui soit exprimée. Et il a pensé qu'une figure féminine pouvait exprimer cette complicité entre l'ange et Marie. Et à la fin de son spectacle, l'ange sort de ce jardin clos en reculant, avec l'air désolé. Pourquoi ? Parce qu'il vient de tout bouleverser. L'ange n'est pas Dieu. Il comprend les paroles qu'il prononce, mais il n'en connaît pas la portée. L'ange est une créature, il n'est pas Dieu. Il est envoyé par Dieu. Il voit qu'il a bouleversé la vie de cette femme complètement, qui était bien organisée. Probablement avait-elle exprimé à Joseph son désir de consécration, accueilli avec beaucoup d'amour par Joseph, protégé par cette vie conjugale qui lui permettait à la fois de garder la tradition, d'être protégé et en même temps de vivre sa consécration. Et là, l'ange vient pour lui dire que tout ce qu'elle avait prévu va être bousculée, renversée. Cette jeune fille, toute jeune, va devoir annoncer à Joseph celui qu'elle aime, celui qui est son époux. C'est pas possible de dire fiancé, c'est dans notre culture que nous disons fiancé. Mais dans la tradition du mariage juif, il y a trois étapes. Il y a l'étape du contrat, qui peut être signé même quand les jeunes sont des enfants, entre deux familles, parce que la conception du mariage n'était pas tout à fait la même que maintenant. Et il y avait des mariages, c'est compliqué de dire arrangés, parce qu'en l'occurrence, Marie et Joseph, probablement, étaient les meilleurs amis du monde. Et peut-être que ce contrat leur avait permis d'être des très bons amis, de se connaître, le rapprochement des familles, la découverte mutuelle de l'un et de l'autre. Avant d'être époux, il faut être évidemment les meilleurs amis. Donc la période du contrat, la période liturgique de la célébration et la période de la vie commune. Probablement étaient-ils entre ces deux dernières périodes. Donc ils étaient vraiment mariés, juridiquement, mais ils ne menaient pas la vie commune. Et Marie est enceinte. Je vous rappelle ce qui est réservé au sort des femmes adultères, puisque évidemment, elle était considérée dans son village comme une femme adultère, ce qu'elle n'était pas. J'en profite pour dire, Marie est la mère de tous. Elle est la mère des consacrés, puisqu'elle l'est. Elle est la mère des mères, puisqu'elle l'est. Elle est la mère des veuves, puisqu'elle l'est. Elle est la mère de ceux qui ont perdu un enfant et qu'on ne peut nommer. Un enfant qui a perdu ses parents s'appelle un orphelin, mais une mère qui a perdu son fils unique, en français, il n'y a pas de mot. Elle est la mère aussi de ceux qui vivent des situations compliquées dans l'Église ou la société, puisqu'elle a été assimilée à une femme adultère et qu'elle a subi la rumeur du village. L'ange la quitte en laissant Marie seule face à un défi considérable et probablement l'opprobre qui anticipe celle de son fils. L'espérance de Marie, c'est qu'au cœur de ces bouleversements, de ces souffrances, des changements que le Seigneur opère dans sa vie, elle garde la foi et la charité. L'espérance, c'est la petite gardienne de ses deux sœurs, de ses deux grandes sœurs. Grâce à l'espérance de Marie, elle est demeurée paisible, sûre que le Seigneur l'accompagnait. L'espérance, c'est de croire que Dieu est toujours là, quel que soit ce que nous vivons. Quels que soient les drames de nos vies, les combats de nos vies, il est là. Il est là, au cœur de nos vies. Voilà notre espérance qui est montrée par Marie. La Vierge Marie, je vais vous la décrire. Imaginons-la auprès de ses amis du village de Nazareth. Imaginez la scène. Elle est au milieu de ses amis, elle est discrète tout en étant présente, elle s'exprime tout en écoutant, elle est surtout très très joyeuse. Ce qui caractérise en premier la vie de Marie et son caractère, c'est sa joie profonde, sa joie qui se transmet, sa joie qui se diffuse. Elle a aussi, et ce qui ressemble un peu à la joie, un cœur paisible. Elle est non seulement paisible, mais elle est aussi pacifiante. À son contact, on retrouve la paix intérieure de celui qui se sait aimé par Dieu. Elle nous aime. J'imagine ses amis du village qui se sont sentis tellement aimés et si simplement aimés, sans des grandes phrases ou des grandes attitudes, aimés avec simplicité. Elle est patiente, elle écoute, elle est attentive. Elle se caractérise par sa bonté aussi et sa bienveillance. Jamais vous l'entendrez dire du mal de quelqu'un. Elle sait regarder toutes les qualités de chacun et les mettre en valeur. C'est une femme de foi. Elle vient puiser toutes ses belles qualités dans sa foi. C'est une femme aussi assez équilibrée. On dirait qu'elle est maîtresse d'elle-même. Elle sait à tel moment ce qu'il faut faire. La maîtrise de soi, c'est ça. Et vous vous dites, mais il a vu la Vierge. Pour la décrire comme ça. Non, j'ai lu Galates 5, 22. Puisque dans l'évangile de l'Annonciation, il est dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Alors si elle est remplie de l'Esprit Saint, sa vie en exhale les fruits. Or, dans Galates 5, 22, il est dit, les fruits de l'Esprit sont amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, humilité, maîtrise de soi. Donc vous voyez, j'ai rien inventé. Et je n'ai pas de révélation particulière concernant la Vierge Marie. Je lis juste l'Écriture. Et je conclus que si elle est remplie de l'Esprit Saint, elle en exhale les fruits. Ce qui veut dire que la joie n'est pas une qualité psychologique qui devrait être excitée en fonction des circonstances, qui devrait être présente en fonction des caractères. La joie est un commandement, en même temps qu'un fruit. Saint Paul nous le rappelle. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie du Seigneur. Si la joie est un commandement, alors, évidemment, Marie était dans la joie. À tout moment de sa vie. Difficile de réduire la joie à un sentiment psychologique si on évoque la joie de Marie dans les moments difficiles que nous connaissons, la croix, ou que nous ne connaissons pas, probablement le décès de Joseph. Comment vivre la joie, c'est-à-dire la véritable espérance, au cœur de la souffrance parfois, comme Marie? C'est un défi. Quand je parle de l'espérance, j'aime parler de ces moments difficiles de nos vies, parce que c'est facile de parler d'espérance quand il y a de l'espoir. C'est beaucoup plus difficile de parler d'espérance quand l'espoir humain a disparu et qu'il reste la petite flamme de l'espérance qui demeure comme une vertu théologale. L'espérance de Marie, elle se manifeste à la croix. Son fils est en train de souffrir, son fils est en train de mourir. Et pourtant, elle garde cette joyeuse espérance. Ce qui n'empêche pas les larmes, ce qui n'empêche pas son cœur d'être transpercé par un glaive. Mais la joie demeure. La joie de Marie, c'est de savoir que, quoi qu'il arrive, elle est aimée de Dieu et elle est à la bonne place. Elle est là où Dieu l'attend. Elle ne peut pas être ailleurs qu'auprès de son Fils. Fut-il dans la souffrance, et surtout s'il est dans la souffrance. C'est cette paix, la joie et la paix sont assez proches, que nous vivons lorsque nous savons que Dieu nous aime et que nous sommes au bon endroit. C'est-à-dire, entre guillemets, dans notre vocation, pas perçu comme un futur, mais perçu comme un maintenant, maintenant au Maître souverain. Cette joie de Marie, elle est réelle, elle est authentique. Cette joie, elle s'accompagne de charité, qui est aussi un fruit de l'esprit. L'amour, on ne le reçoit pas comme ça, à la naissance. L'amour, il faut aller le chercher au contact de Dieu, au contact de l'Esprit Saint. Il faut apprendre à aimer. Et le signe de cette espérance de Marie, de cette joie de Marie, c'est donc sa charité. Et sa charité est bouleversante au moment de la croix. Bien sûr, dans ce magnifique dialogue silencieux entre Marie et Joseph, entre Marie et Jésus, pardon, exprimé dans ce « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Et exprimé surtout dans ce qui se passe entre ce moment de la mort de Jésus et le moment où elle est réunie au Cénacle avec les apôtres. C'est une question qui m'a beaucoup bouleversé, taraudé. J'ai longtemps cherché pour savoir ce qui avait bien pu se passer entre les deux événements. Parce que, souvenez-vous, les apôtres sont tous dispersés. Tous, puisqu'il y en a un seul à la croix et que tous les autres sont absents. Probablement, il n'y en a aucun qui est l'un avec l'autre. Ils sont tous dispersés. J'imagine Pierre qui se rend compte au moment où le coq chante qu'il a renié trois fois. Qu'il a renié celui qu'il considérait comme le Messie, son ami, au moment où il en avait où cet ami avait le plus besoin de lui. J'imagine Pierre se réfugier dans la solitude et la honte, comme Adam qui se cachait. Probablement Pierre s'est-il caché, intérieurement, psychologiquement et physiquement. Sa honte l'a replié sur lui, l'a recroquevillé dans la tristesse et les larmes. Impossible pour lui d'avoir le sursaut nécessaire pour aller, on ne sait pas pourquoi, dans ce cénacle qui réunira à nouveau les apôtres. Et c'est pareil pour tous les autres. Tous les apôtres sont dans leur péché, dans leur trahison, dans leur honte, dans leur tristesse. Et pourtant, Marie continue de vivre la charité, parce que la souffrance de Marie ne la replie pas sur elle-même. La qualité de la charité de Marie, qui est un fruit de l'esprit, fait qu'elle sera toujours attentive aux autres, à son fils en premier lieu. Et lorsque son fils remet l'esprit à tous ceux qui l'entourent, à Jean, à Marie-Madeleine, à Marie, femme de Cléophas, qui sont là, mais aussi aux autres qui ne sont pas là. Marie est attentive, encore au cœur de sa souffrance, à chacun d'entre nous. Et j'imagine, alors là, je suis dans l'imagination, mais cette imagination, elle prend racine dans la parole de Dieu, comme pour Galates 5, 22. J'imagine ce qui a bien pu se passer. J'imagine Jean prendre très au sérieux la mission que Jésus lui a confiée. Voici ta mère. Peut-être l'a-t-il comprise cette demande dans un sens assez matériel, avant de la comprendre peut-être plus tard, mais progressivement dans un sens beaucoup plus spirituel. Une femme qui est veuve et qui a perdu son enfant, dans la tradition juive, on ne peut pas la laisser. Et son fils a confié à Jean la mission simplement de la prendre sous son toit, de veiller sur elle, pour qu'elle ait au moins de quoi manger, de quoi dormir, qu'elle soit assistée, qu'elle soit accompagnée. Et c'est ce que Jean fera toute sa vie. Alors, lorsque il est temps de rentrer, donc probablement au Cénacle, puisqu'on leur avait prêté cet endroit pour réunir les apôtres au Jeudi Saint, probablement sont-ils retournés au même endroit le Vendredi Saint. Dans cette chambre haute. Et j'imagine Jean accompagner Marie jusqu'à ce lieu du Cénacle. Et arrivée au Cénacle, Marie a probablement interpellé Jean. Ils sont où les autres ? Puisqu'elle était attentive aux autres, elle a su se mettre à leur place. Elle a su se dire, mais quelle souffrance terrible ils doivent vivre. Quelle solitude, quelle angoisse. Et Marie n'a pas pu rester inactive. Elle n'est probablement pas allée les chercher. Jean ne l'aurait pas permis. Mais je me mets à la place de Jean. Moi, si j'avais été Jean, et que si j'avais entendu Marie me dire réellement ou symboliquement, d'une manière ou d'une autre, ils sont où les autres ? Je me serais mis en route. J'aurais été les chercher. J'aurais tout fait pour qu'ils puissent se réunir. Et quelle est la seule phrase, quelle est la seule attitude qui aurait pu faire comprendre à Pierre qu'il fallait qu'il retourne au Cénacle ? Ce ne sont pas des attitudes pieuses ou psychologiquement convenues, du style « ne t'inquiète pas, c'est pas grave ». Non, la seule phrase qui a pu mettre Pierre en route, me semble-t-il, c'est « elle a besoin de toi ». La mère te réclame. Alors, déjà ayant vécu le reniement, il s'est dit « bon, je suis un pauvre type, j'ai laissé Jésus, mais puisqu'elle m'appelle, puisqu'elle a besoin de moi, puisque son fils est mort, alors je vais me mettre en route. » En fait, je pense que Pierre est comme chacun d'entre nous. La seule fois où on est vraiment valorisé, où on se sent nécessaire, la seule parole qui puisse combler toutes les autres, un peu trop humaines, c'est « j'ai besoin de toi ». Parfois même les « je t'aime » ne sont pas nécessaires, ne sont pas suffisants. En revanche, quand on vous dit « j'ai besoin de toi », alors vous vous levez et vous y allez, parce que vous vous sentez important. Marie sait rendre les gens importants. Marie sait faire confiance à ceux qui sont désespérés pour leur redonner la vie. Alors j'imagine que les apôtres, petit à petit, et penauds, sont retournés pour soutenir la mère. Et du coup, Marie a fait son travail de mère de l'unité. Marie a, au nom de Jésus, puisqu'il n'était plus là, finalement, il y a un seul jour où Jésus n'était pas là, réellement absent, au point que dans nos liturgies, on manifeste cette absence. C'est du vendredi soir au dimanche matin. La mère de l'unité, elle se révèle d'une manière admirable le samedi saint. Dans ce mystère de silence qui est aussi un mystère d'espérance. C'est elle qui porte l'Église, c'est elle qui porte dans sa foi, dans son espérance et dans sa charité l'Église en notre nom à tous, alors que nous sommes des pécheurs, alors que nous avons abandonné le Christ, alors que nous avons perdu parfois l'espérance, la foi ou la charité. C'est Marie qui la porte en notre nom. C'est Marie qui a porté au nom de toute l'Église les trois vertus théologales au jour du samedi saint. Pour que l'Église étant à nouveau reconstituée, réunie, les apôtres étant à nouveau ensemble, ils puissent accueillir le Seigneur et recevoir l'Esprit Saint. Cette condition nécessaire, qui est l'unité pour recevoir l'Esprit Saint, a sans aucun doute été réalisée par Marie. Et s'il est dit dans les Actes des Apôtres qu'ils étaient réunis avec Marie, c'est pas pour rien. Et donc c'est de cette petite phrase « avec Marie » que je déroule le fil de tout ce que je viens de vous dire. Ils étaient dispersés, ils sont à nouveau réunis. Ils étaient dans l'angoisse, ils sont dans l'attente, pas encore dans l'espérance. C'est Marie qui porte l'espérance, mais ils sont au moins dans l'attente. L'espérance viendra avec la venue du Seigneur qui leur rendra, d'une certaine manière, ce troisième fruit de l'esprit qu'est la paix. La paix soit avec vous. Marie a fait tout le travail qui est aussi la mission de l'Église. La première mission du pape qui va être élu, c'est d'être garant de l'unité. La première mission de l'évêque dans son diocèse, c'est celle-là aussi. Et il le fait en étant un enseignant, en sanctifiant et en célébrant, en annonçant l'Évangile, en vivant la charité, en gouvernant. Mais tout cela, en vue de quoi ? En vue de réunir les fidèles comme vous l'êtes aujourd'hui, pour qu'ils rencontrent leur Seigneur. L'Église, comme servante, est avant tout servante de la rencontre entre Dieu et son peuple, pour que le mystère pascal s'accomplisse en chacun de vous. Nous sommes avec Marie et à sa suite les garants de l'unité. La voilà l'espérance véritable que Marie nous invite à porter, que je vous invite à porter ces jours-ci en particulier, puisque l'Église, ce n'est pas seulement les cardinaux réunis à Rome, c'est chacun d'entre vous qui priez, qui offrez, qui vivez ce mystère de l'unité pour que l'Esprit Saint puisse descendre dans le cœur de ces apôtres réunis dans le cénacle qu'est le conclave et que l'un d'eux puisse porter au nom de l'Église, au nom de Marie aussi, figure de l'Église, ce mystère de l'unité. Demandons au Seigneur pendant la célébration que nous allons vivre dans quelques instants et à laquelle nous nous préparons. Demandons à Marie de nous garder dans l'unité. Demandons lui de nous garder dans l'espérance, la foi et la charité, qui sont les grandes vertus théologales qui nous permettent de rejoindre Dieu. Marie, Mère de l'unité, priez pour nous.